président, monsieur le secrétaire perpétuel, mes chers confrères et consoeurs, je voudrais d'abord vous remercier de l'honneur que vous m'avez fait en me conviant à appartenir à votre académie qui siège dans une ville que je connais très bien, où est née ma femme, où sa famille réside depuis très longtemps, qui a été illustrée par Guizot que vous citiez tout à l'heure et qui est un de mes personnages favoris. Depuis très longtemps, je crois avant mon mariage, donc avant Nîmes. Tout cela me permet de me sentir, ce serait un peu rapide et présomptueux de dire déjà chez moi, mais en tout cas pas comme une personne déplacée. Vous m'avez demandé, en guise de réponse à votre présentation qui était extrêmement chaleureuse et raffinée, et non seulement érudite, mais extrêmement précise dans ses jugements. Il y en a un seul que je ne partageais pas, mais je vous dirai après. Mais il ne portait pas sur moi, mais sur un des personnages que vous citiez. Ça m'a en tout cas beaucoup intéressé, et j'allais dire presque appris. Vous m'avez demandé de prononcer une communication sur un sujet de mon choix, et j'ai choisi celui de la place des protestants dans la société française aujourd'hui. Si j'ai eu envie de choisir ce sujet-là, c'est bien sûr parce que c'est à Nîmes, encore qu'à l'époque j'ignorais les subtilités particulières à l'Académie de Nîmes dans ce domaine. Mais c'est aussi parce que j'avais été beaucoup frappé au mois de janvier, pendant ce qu'on appelle pieusement déjà les événements, par l'absence totale et paradoxale des protestants. Au mois de janvier, on a cessé de parler des catholiques, des musulmans et des juifs, qui ont été considérés comme au fond les trois acteurs de ces circonstances-là. Les protestants, à aucun moment ils sont apparus, ou plus exactement, à un moment, quand le nouveau président de la Fédération protestante, qui a sa personnalité, a eu l'idée de prendre l'initiative d'un texte commun à l'ensemble des responsables religieux. Ça n'a pas beaucoup frappé la presse dans son ensemble, elle n'est jamais frappée par les protestants. Alors, la question est de savoir pourquoi. Pourquoi et pourquoi aujourd'hui ça ne tient pas au fait qu'on ne parle jamais dans aucun pays des protestants. Aux États-Unis, les différents protestantismes sont un sujet de discussion, de revendication, quasi quotidien, et on sait très bien que la place du protestantisme aux États-Unis est ressentie comme un élément déterminant de la culture politique et sociétale des États-Unis. En Grande-Bretagne, les anglicans sont une catégorie à part, mais enfin, l'anglicanisme est une religion d'État dont les pompes, fort peu protestantes, néanmoins comptent énormément dans la vie quotidienne et dans la vie officielle du pays. Je pourrais continuer avec beaucoup d'autres pays, où qu'ils soient réformés, luthériens, ou presbytériens, ou méthodistes, on ressent très fortement l'empreinte publique du protestantisme. En France, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Pourtant, on ne peut pas dire que le protestantisme n'ait pas eu sa singularité dans notre pays. Bien sûr, quand on parle du judaïsme, son histoire est tellement dramatique que sa présence s'impose. Quand on parle de l'islam, le caractère à la fois encore mystérieux mais déjà anxiogène qu'il suscite appelle évidemment beaucoup de commentaires. Quand on parle du catholicisme, on a l'impression de refaire l'histoire de la France. Quand on parle du protestantisme, ce sont non seulement des morceaux de l'histoire de la France, mais c'est aussi aujourd'hui encore un élément déterminant dans la réalité de la société. Pourquoi est-ce que ça n'apparaît pas davantage? Ça n'est pas faute d'influence réelle. Bon, l'influence historique, je vais aller très vite, mais l'influence historique est une réalité. Depuis les guerres de religion, après une période d'effacement involontaire qui s'est traduite surtout par des exodes qui ont donner le privilège aussi bien aux Pays-Bas, aux Suisses, à la Prusse de l'époque et à l'Afrique du Sud par la suite, d'avoir des élites de très grande qualité. Dès l'approche de la Révolution de 1787, les protestants ont retrouvé en France une place officielle. Pendant la Révolution, ils ont commencé à établir ce qui est une de leurs caractéristiques, c'est-à-dire une surreprésentation discrète dans la vie publique française, ce qui n'a cessé d'exister depuis. Sous la Révolution, ils ont joué un rôle. Pour ma satisfaction, ils ont été plutôt du côté, en règle générale, des guillotinés que des guillotineurs, en particulier leurs représentants, y compris de cette région. Ils ont traversé une très mauvaise période avec la Restauration, mais avec Louis-Philippe, avec Guizot, mais avec Louis-Philippe lui-même, qui avait des idées religieuses, libérales et ouvertes, ils ont retrouvé une place officielle significative, qui d'ailleurs s'est traduite à cette époque-là par l'édification de nombreux temples, pendant le règne de Louis-Philippe. Sous Napoléon III, on a vu apparaître les dynasties bancaires et industrielles protestantes bien connues, qui ont à cette époque-là joué un rôle considérable. Et puis évidemment, avec la Troisième République, on a eu l'apogée politique du protestantisme français. On peut, sans vouloir dire que c'est au détriment d'autres catégories de la population française, dire que le meilleur de la Troisième République est largement né de l'influence protestante. Ça a été vrai des lois sur la presse, ça a été vrai des lois syndicales, ça a été vrai en général des lois sociales, ça a été vrai évidemment de la loi de 1905 sur la laïcité, ça a été vrai très massivement de ce qui s'est d'abord appelé l'instruction publique, puis par la suite l'éducation nationale, longtemps après. Dans tous ces domaines, l'influence protestante a été non seulement significative, mais particulièrement déterminante. Pendant la guerre, les protestants se sont dans leur ensemble comportés plutôt moins mal que d'autres, ce qui leur a d'ailleurs été assez souvent reconnu. Sous la Quatrième République, leur caractéristique a été de fournir un nombre déraisonnable de très hauts fonctionnaires et de très grands dirigeants des entreprises publiques. Le nombre des plus fameux ambassadeurs, conseillers d'État et présidents des grandes entreprises publiques à cette époque, issus du protestantisme, est presque anormal. Heureusement, ils n'avaient pas trop l'habitude de l'étaler en public, mais enfin, c'était une réalité. Et puis, sous la Ve République, qui était pourtant une république dont le fondateur était d'inspiration extrêmement catholique, il y a tout de même eu trois premiers ministres protestants, certes fort différents. Maurice Couve de Murville, que j'ai bien connu, qui m'a fait passer un examen difficile sur le traité de Westphalie, mais il s'agissait déjà de religion, et qui était extrêmement caractéristique de ce qu'on appelle la HSP, avec toutes les qualités intellectuelles que ça implique, avec quelques petits travers qui surgissent ici ou là. Michel Rocard, qui a été l'incarnation du protestantisme militant, avec son désintéressement, sa générosité et son brio intellectuel, bien entendu, et ici ou là, quelques naïvetés qui se retrouvent dans les mouvements religieux et dans les associations religieuses protestantes assez régulièrement, qui font partie de leur patrimoine et qu'il a assez bien illustré. Et puis Lionel Jospin, qui se déclare toujours résolument comme non-protestant, mais qui néanmoins a une culture, comme je le lui ai dit souvent, qui reflète des pans de protestantisme, et comme je ne manque jamais de lui dire, avec des qualités qu'on pourrait étiqueter protestantes et quelques défauts qu'à regret on devrait décrire comme peut-être protestants aussi. Donc tout ça prouve que si on ne parle pas aujourd'hui beaucoup du rôle des protestants dans la société française, ça n'est pas faute d'influence. Ça n'est pas non plus par décroissance statistique, puisque notamment chez les évangéliques, le nombre des protestants augmente plutôt. Et Il doit y avoir donc un certain nombre d'explications. Alors ces explications, autant ce qui est historique, ce sont des faits, autant les explications, les interprétations, ce sont évidemment des hypothèses. Ces hypothèses, je ne jurerai pas qu'elles soient forcément exactes. Mais le sujet est intéressant, il n'est pas banal. Je dirais d'abord que un des très grands handicaps protestants est que c'est sans doute la religion aujourd'hui la plus sereinement intégrée dans la République. Le catholicisme est infiniment plus puissant, a joué un rôle historique dans notre pays infiniment plus significatif, mais a eu, on le sait bien, avec notamment la République, mais avec la monarchie aussi, des relations qui ont été très souvent conflictuelles. Les protestants, depuis la République, n'ont jamais eu le moindre conflit significatif avec l'État. Le judaïsme en France a eu une place qui, d'ailleurs, chronologiquement, s'est vue reconnue en même temps que celle des protestants pour l'essentiel, a toujours fait des efforts exceptionnels de respect de toutes les règles, normes et lois de la République, ce qui est une grande particularité, mais a connu tant de drames et de tragédies dans son histoire française qu'on ne peut pas dire que ce soit produit pour elle, pour lui le judaïsme, pour elle cette religion, exactement la même mécanique que celle des protestants. Et quant à l'islam, bien sûr, on sait que c'est la nouvelle religion, qu'elle n'a pas encore trouvé, qu'elle n'a pas de statut public, et qu'elle n'a pas encore trouvé en France une place qui puisse de près ou de loin lui assurer la sérénité qui est nécessaire au sein de la République. Donc je crois que la première piste d'interprétation du protestantisme et de son apparent effacement malgré son influence réelle, c'est d'abord que le protestantisme est à la limite tellement bien intégré dans la République qu'on ne remarque plus qu'il existe. La deuxième explication, c'est peut-être que le protestantisme français, alors ça va paraître assez présomptueux de dire ça, c'est pour ça que je présente ces interprétations comme des pistes qui peuvent être discutées, bien entendu. Mais il me semble que il arrive au protestantisme français ce qui est survenu auparavant au radicalisme français. C'est-à-dire qu'il est mort d'épuisement après avoir trop atteint ses buts. Le radicalisme avait des objectifs. Ces objectifs ont tous été atteints dans la République, et quand ces objectifs ont été atteints, le radicalisme a doucement décliné et a cessé en tout cas de se faire remarquer. Il survit, il existe, mais il n'a plus de loin la puissance et le prestige qu'il avait encore avant la guerre. Pourquoi ? Parce que ce qu'il voulait réaliser, il l'a réalisé. D'une certaine manière, et alors évidemment il ne faut pas pousser le parallèle de façon trop proche, le religieux et le politique se rencontrent souvent mais ne se confondent jamais. D'une certaine manière, il arrive au protestantisme quelque chose du même genre. C'est-à-dire que la culture politique et sociale du protestantisme se retrouve aujourd'hui si bien dans ce qui est devenu, avec ses difficultés, la société française, qu'il lui est pratiquement impossible de s'identifier comme tel. Si on prend les grandes évolutions, disons, depuis 20 ou 30 ans au sein de la société française, d'abord, il y a un triomphe de l'individualisme. Les protestants, bien sûr, ont le goût et même la passion de leur communauté, mais on peut dire qu'au sein de leur communauté, l'individualisme y est incontestablement beaucoup plus répandu qu'il ne l'est au sein d'autres religions en France. L'individualisme fait partie des spécificités protestantes et ça correspond à l'évolution de la société aujourd'hui. Ensuite, le respect de la laïcité. Je disais que la laïcité avait été largement inspirée par les protestants, sous une forme d'ailleurs quelquefois plus tolérante que ce qui est devenu sa traduction législative. Mais incontestablement, si une religion fait bon ménage avec la laïcité, c'est le protestantisme. Or, il se trouve que la laïcité a pris depuis 20 ans, depuis 30 ans, et on le voit très bien dans les grands conflits sociaux, culturels qui existent, une place particulière. C'est en réalité à propos de la laïcité qu'ont eu lieu depuis le début des années 80 les plus importantes manifestations. C'est à propos de l'école privée en 1984, les plus grandes manifestations en France depuis la guerre. C'est tout récemment à propos du mariage pour tous. On voit très bien que tout ce qui touche à la laïcité aujourd'hui est à la fois un élément constituant de la société française, une particularité de la société française qui pousse la laïcité plus loin qu'aucun autre pays, et en même temps encore un sujet de débat ou de conflit, et que la question de l'islam évidemment pose de nouvelles questions à la laïcité. Les protestants sont la laïcité et vivent la laïcité, et donc de ce point de vue ils ont là encore trop bien réussi. Ensuite, il y a un équilibre qui a quelquefois été critiqué, notamment par ceux qui ne sont pas protestants, entre l'individualisme protestant et un sens de la solidarité, un sens de la responsabilité sociale, à commencer par celui qui existe justement dans ce qu'on appelle la HSP au départ, qui, plus que d'autres sociétés comparables, a eu à cœur de jouer un rôle social qui n'a pas toujours été le cas de toutes les catégories dirigeantes françaises, quelle que soit leur religion ou leurs affinités politiques, culturelles ou territoriales. Et les mouvements de solidarité de l'ensemble, pour le coup, des protestants, qui ne mobilise évidemment pas tous les protestants, personne n'est parfait, même pas les protestants, mais incontestablement, ces mouvements de solidarité, quelquefois dérangeants, quelquefois un peu utopiques, souvent très actifs, plus que proportionnels à ce que les protestants représentent arithmétiquement, sont aussi parmi les objectifs que la société d'aujourd'hui tente d'atteindre sans y parvenir toujours, et même en y parvenant relativement rarement. Et puis alors, cet équilibre qui s'esquisse aujourd'hui entre l'économie de marché, à laquelle la France a quand même été assez longtemps réfractaire, qu'elle soit de gauche ou de droite, d'une part, et d'autre part, une dimension de solidarité qu'on appelle, à mon avis, de façon un peu archaïque, le modèle social français. Il n'y a pas de raison qu'un modèle social né de la résistance au milieu des années 40 soit aujourd'hui immuable. Il est évident qu'il a besoin de changer, mais il n'empêche que ce besoin d'équilibre entre l'économie de marché et entre des formes de solidarité sociale, qui est une spécificité, pas une particularité française, mais est aussi une pente protestante depuis toujours. Les protestants ont été dans ce pays pas exclusivement des partisans de l'économie de marché, certains d'entre eux avaient d'autres préférences, mais ont été parmi les pionniers de l'économie de marché, tout en étant en même temps parmi les pionniers de la solidarité sociale. Et d'une certaine façon, les débats qui ont lieu aujourd'hui tournent toujours dans l'ensemble de la société autour de ces thèmes-là, et là encore, les protestants sont d'une certaine manière victimes de leur succès. Et puis, il y a des handicaps, cette fois-ci, enfin des handicaps et des reconnaissances, puisque c'est l'un et l'autre à la fois, il y a aussi ce qui tient au protestantisme lui-même dans ce pays, sous sa forme réformée, sous sa forme luthérienne, peut-être moins sous sa forme évangélique, mais qui est qu'au fond, le protestantisme est la seule réussite du parlementarisme en France. On est dans un pays qui est devenu d'abord un pays de l'exécutif. À tous les niveaux, dans ce pays, et ça a été extrêmement délibéré chez le général de Gaulle, l'exécutif doit l'emporter sur le législatif. C'est vrai au niveau national, C'est vrai au niveau régional, c'est vrai au niveau départemental et c'est vrai au niveau communal. La France est un pays de grands chefs, de moyens chefs et de petits chefs d'exécutif. Il se trouve que les protestants sont au contraire des parlementaristes nés, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire l'indépendance d'esprit, c'est-à-dire le goût de débats éternels qui ne sont jamais refermés, c'est-à-dire un individualisme qui fait que ça n'est pas parce qu'un vote a eu lieu que chacun se sent obligé de le respecter, c'est-à-dire que le fonctionnement du protestantisme en France ressemble extraordinairement, je ne dis pas à la 4e République parce que ce serait désobligeant, mais disons à certaines périodes de la 3e République, quand il s'agit de prendre une position commune, d'abord le protestantisme, c'est un archipel dans ce pays. Et c'est un archipel dans beaucoup de pays, pas dans tous, mais il y a des grandes îles, des petites îles, des îlots, et chacun sous son pavillon avec la plus grande difficulté à se mettre d'accord. Ça signifie que quand il se produit quelque chose, interpellant, comme on dit, directement les religions, les protestants sont ceux qui débattent le plus librement entre eux, mais sont toujours les derniers à réagir. Ils sont les derniers à réagir parce que le temps qu'ils se mettent d'accord sur un point de vue qui, par la force des choses, sera toujours contradictoire, donc minimaliste, fait que prendre une position qui est en général une position plus libérale, entre guillemets, que celle des autres religions, et donc qui pourrait intéresser parce qu'elle est différente, mais est en même temps obscurcie tellement elle est lente et complexe. Et que dans la vie sociale, c'est évidemment un handicap. Alors, en plus, évidemment, c'est un handicap qui va très exactement à l'encontre de l'évolution de l'information, donc de la représentation des religions par la société. Rien n'est plus contraire à l'information continue et à certains sites qui existent, mais surtout à l'information continue, que le protestantisme. L'information continue, c'est la recherche de l'instantanéité absolue, quitte à bousculer au passage le besoin de contrôle ou de vérification. Le protestantisme, c'est exactement l'inverse. Les journalistes d'information continue veulent être les premiers sur n'importe quoi, quitte à se tromper complètement sur ce qu'ils annoncent. Les protestants veulent tellement dire ce qu'ils croient être juste et sont tellement souvent en désaccord sur ce qu'ils pensent être juste, qu'avant qu'il y ait une position qui s'exprime, on a pratiquement changé de siècle. Ce qui est historiquement intéressant, mais qui, en influence réelle, est évidemment assez frustrant. Et puis, je dirais qu'il manque, alors là je vais évidemment d'abord enfoncer résolument une porte ouverte, puis en entrebâiller une, peut-être moins souvent utilisée, il manque aux protestants un pape et un polémiste. Alors, dans le passé, ils ont fait de leur mieux. À un moment, le pasteur Bugner était surnommé le pape du protestantisme. Le pape, c'était évidemment très exagéré, mais enfin, il y avait un côté d'éminence, en tout cas, de consécration publique. Il avait un rôle important dans la représentation, il était membre de l'Académie française. C'était un personnage. C'était un personnage, mais c'était pour les protestants une incongruité. C'était le contraire même du fonctionnement du protestantisme. Et d'ailleurs, il n'a pas eu de successeur ayant l'ombre du commencement d'un statut de ce genre. Et puis, il faut bien dire que pour qu'une religion fasse parler d'elle-même, il faut des figures pour l'incarner. Et chez les protestants français, ce sont plutôt des figures qui pourraient peut-être l'incarner, mais à qui on demande avec insistance de surtout ne pas le faire, et avec insistance et avec succès. Et puis il faut des polémistes aussi pour prendre des positions. Alors on a eu Agrippa d'Adonier, qui dans ce genre, et l'épée à la main et la plume à la main, était assez bon. Mais depuis, pour défendre avec férocité et le cas échéant avec mauvaise foi des positions communes. Non, les protestants n'y arrivent pas. Et comme ils n'y arrivent pas, eh bien, on ne les entend pas. Alors, c'était au fond les thèmes que j'essayais de tricoter rapidement devant vous. Je trouve que cette religion qui fait quand même partie des originalités françaises, qui existe sous des formes qui, au fond, varient quand même extraordinairement vite. Le fait que maintenant il y ait les luthéraux réformés, évidemment, au siècle dernier, c'était inimaginable. Et je dirais que c'est assez différent comme mécanique du mouvement de Mgr Lefebvre avec le Vatican. Ça ne fonctionne pas de la même façon. Bon, et quand on voit le développement des évangéliques, qui est quelquefois très sympathique et quelquefois aussi un peu inquiétant, il n'empêche qu'on ne peut pas dire que ce soit un mouvement en train de se dessécher ou en train de dépérir. Mais je voulais, puisque je pensais que les circonstances s'y prêtaient, que le lieu s'y prêtait plus que peut-être dans n'importe quelle autre ville française, et que cet hôtel particulier s'y prêtait encore plus que l'ensemble de la ville, je voulais essayer d'esquisser devant vous cette drôle de situation d'une religion influente, intéressante, vivante, et néanmoins quasiment aujourd'hui clandestine. Je vous remercie.